gré des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
Bonjour, bonsoir. Impérieux, emporté extrêmement tout d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs, athée jusqu'au fanatisme, en deux mots, me voilà, tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. Ainsi parlait le marquis de Sade, qui investit le musée d'Orsay pour une exposition dont Annie Lebrun, auteur de plusieurs ouvrages sur Sade et spécialiste du surréalisme, en est la commissaire. On savait combien l'auteur sulfureux de Justine, La philosophie dans le boudoir ou Les 120 journées de Sodome avaient marqué les écrivains, qu'il s'agisse de Baudelaire, Flaubert, Barbey d'Orvilly ou bien sûr Apollinaire. 200 ans après sa mort, on découvre combien sa vision crue du sexe, de la violence et peut-être même de l'homme, tout simplement, a également influencé l'esthétique picturale et plastique des 19e et 20e siècles. L'exposition Sade, attaquer le soleil, c'est jusqu'au 25 janvier au musée d'Orsay et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Annie Lebrun.
Bonjour.
Sade au musée d'Orsay, est-ce que c'est une provocation?
Pas vraiment.
Pas vraiment, donc un petit peu quand même.
Bah, je pense que ça peut surprendre, ça peut même choquer certaines personnes, mais justement dans la mesure où on a déjà bien vu l'influence que Sade avait dans la littérature, comme vous l'avez rappelé, je pense qu'il était temps d'essayer de voir quelle a été, plus que son influence, la manière dont il a influé justement l'expression plastique au 19e siècle.
Alors le parcours du visiteur de cette exposition est rythmé par les citations de Sade. Est-ce qu'on peut dire que les œuvres que vous avez rassemblées dans le cadre de cette exposition ont été choisies en fonction de ces phrases? Comment est-ce que vous avez construit le parcours?
C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que oui, l'exposition, et ça j'y tenais beaucoup, est ponctuée et même structurée par des citations de Sade. Elle est aussi accompagnée de citations d'écrivains et même d'artistes du 19e siècle, parce qu'il s'agissait de montrer la rencontre qui se fait justement dans les profondeurs de la sensibilité.
Mais vous êtes parti de l'œuvre de Sade ou vous êtes parti des collections du musée d'Orsay?
Non, je ne suis pas parti des collections du musée d'Orsay. C'est qu'il m'a semblé que dans la mesure où Sade pose la question de l'irréprésentable violence du désir, comment rendre compte de cela? C'est quelque chose qui hante en quelque sorte toute sa démarche, hein. C'est comment donner forme à ce qui est censé n'en pas avoir. Il m'a semblé que justement là, Sade rencontrait des préoccupations qui deviennent des préoccupations majeures des peintres de cette époque, parce que au moment où justement les grandes structures éthiques, religieuses sont en train d'être bouleversées à la charnière du 18e et du 19e siècle, forcément, les questions de représentation se posent de façon très aiguë. Et on voit, parce que jusqu'à présent, et c'est aussi ce qui est montré dans l'exposition, c'est que, et bien sûr, ce dont parle Sade, cette violence du désir, elle existe, elle a été abordée tout au cours de, même ça hante l'histoire de la représentation, mais on avait des formes de représentation codées. On évoquait cette violence-là à travers la peinture mythologique. Quand on regarde attentivement ce qui se passe dans les évocations mythologiques.
Bien sûr, il y a beaucoup d'ailleurs de sujets mythologiques dans l'exposition.
Exactement, mais aussi à travers la peinture religieuse où c'était quand même le prétexte à mettre en scène un certain nombre d'horreurs, et puis aussi dans la peinture historique. Or, ces codes représentatifs sont en train de s'effondrer, et il y a une recherche, il y a une quête chez les peintres du début du 19e siècle d'essayer de rendre compte justement de cela différemment.
Mais l'influence de Sade, Annie Lebrun, est-ce qu'elle est consciente chez les peintres, ou est-ce que finalement elle est sous-jacente en quelque sorte? On va pas parler de psychanalyse avant l'heure, mais est-ce qu'elle est inconsciente?
Je ne sais pas si elle est consciente, et c'est aussi ce qui fait à la fois qui faisait la difficulté et l'intérêt de l'exposition, justement de rendre compte comment cette pensée-là clandestine, maudite, tout au long du 19e siècle.
Parce que personne ne pouvait officiellement se réclamer de ça.
Non.
Surtout pas.
Non, surtout
pas. Il fallait pas le dire.
Et même justement, il y a un exemple où, je crois, c'est dans la dans une recension de Salammbô, Sainte-Beuve fait allusion à Sade, et Flaubert, qui était pourtant un admirateur passionné de Sade, écrit à Sainte-Beuve que pratiquement il veut sa mort publique. Vous voyez,
oui.
Donc même les gens qui étaient très influencés par Sade faisaient attention à ne pas s'en réclamer publiquement. Donc ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir comment justement cette pensée clandestine a travaillé le 19e siècle.
Alors justement, du point de vue esthétique maintenant, en quoi est-ce que la pensée de Sade a été révolutionnaire ?
Je pense que par exemple un tableau de Lacroix comme La mort de Sardanapale, dont on a la chance d'avoir la grande étude qui vient du Louvre, constitue une sorte d'illustration, si on peut dire, du propos de Sade.
Alors en quoi ?
Et parce que vous connaissez l'histoire de...
Alors rappelez-la nous et décrivez-nous le tableau surtout.
Donc il s'agit d'un monarque absolu, Sardanapale, dont le royaume est assiégé, et qui sait qui va périr dans cette histoire-là, et lui donc décide en quelque sorte de mourir de la façon la plus voluptueuse possible et la plus grandiose, c'est-à-dire en faisant mourir avec lui ses courtisanes, ses chevaux et tout le luxe qui l'a entouré doit disparaître avec lui. Et c'est ce tableau, et qui a d'ailleurs influencé Byron aussi, ce tableau et ce qui est que de la croix peint alors qu'il est assez jeune, on voit comment c'est une sorte de brasier qui est lancé dans la sensibilité du 19e siècle.
Donc de par le sujet et puis de la façon aussi dont les corps sont représentés.
C'est
et là,
ça
va au-delà de la croix
d'ailleurs. Voilà. Et là, c'est ce qu'il y a justement de particulièrement intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où les artistes vont aborder ces forces-là en dehors des codes de représentation, eh bien, on ne peint plus de la même façon. Et en ce qui concerne de la croix, donc on voit comment ce tableau de jeunesse, qui est une sorte de brasier de couleurs, de tourbillon de couleurs, où tout est emporté dans cette sorte de naufrage où il y a la liaison de la volupté, de la souffrance, et donc aussi cet cheminement vers la mort, on voit comment, eh bien, 20 ans après, on va le retrouver dans sa peinture avec ce tableau incroyable qui est là aussi, qui est la chasse au lion, où ça n'est plus qu'un tourbillon de couleurs, une sorte de férocité de couleurs qui agresse le regard et qui remet en cause l'image des corps et aussi qui interroge profondément notre sensibilité.
Il y a aussi des œuvres d'Ingres hein, dans l'exposition, de Courbet aussi,
oui.
qui
oui.
représentent des corps marqués par un désir beaucoup plus visible pour l'œil du visiteur qu'auparavant.
L'exemple de Ingres est extrêmement intéressant parce que chacun connaît le classicisme.
Oui, alors là on se dit mais alors
et on
ça
voit comment pendant je crois 40 ans Ingres va être obsédé par l'histoire de Roger et Angélique. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est captive du dragon et que un chevalier va délivrer. Et on voit comment ce tableau, dans lequel au départ Ingres obéit au code de représentation, donc tous les acteurs sont là, enfin dans une mise en scène splendide, mais comment peu à peu l'accent va être de plus en plus sur le corps nu de cette jeune captive et qui peu à peu le dragon va disparaître, ne va plus être qu'une sorte de bouche sombre, et puis l'éclair de Roger, on ne va plus retenir de son délivreur, on ne va plus retenir que l'éclair de son glaive, et tout d'un coup tout l'accent érotique, si je puis dire, passe sur le corps, dans le corps de cette jeune captive. Et là, c'est le début aussi de ce qui se passe au 19e siècle. C'est comment le corps des jeunes personnes innocentes devient cette page blanche sur laquelle le désir va s'inscrire. Ou alors, aussi, suivant les différentes versions de ce tableau chez Ingres, on voit comment peu à peu ce corps est agit de l'intérieur pour donner une image de l'éperdu.
L'impressionnisme également, influencé par ça, là, c'est quand même très très étonnant. Par exemple, même chez Cézanne, j'aurais jamais cru que Cézanne et Sade pourraient se retrouver esthétiquement parlant.
Alors là, c'est quelque chose, je pense, de très important. C'est le fait que toute la jeunesse de Cézanne est hantée par la question érotique. Et avec donc des tableaux d'une violence incroyable. Au musée d'Orsay, on a la chance d'avoir en particulier la femme étranglée, mais on a eu aussi
un tout petit format.
Mais on voit à quel point toute l'intensité de la vie passe dans cette femme qui le désir fait que elle va succomber. Aussi, c'est que on voit comment aussi avec un tableau qui s'appelle l'enlèvement, un tableau extraordinaire qu'on a pu avoir de Cambridge, comment Cézanne est complètement obsédée par cette question du désir, de la violence du désir, et en même temps comment justement cette violence du désir est pour lui profondément liée à l'expression même picturale.